Europe 1.
Le tour de table culturel de ce samedi matin. Ah, en studio avec moi, il y a la divine Angèle Châtelier.
Bonjour.
Qui brave tous les dangers, qui elle vient à la station, alors que les deux planqués, Charrier et Caro, sont chez eux, confinés à mort. Néanmoins, bonjour mes amis, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
C'est vous qui avez l'ouverture, Mathieu Charrier, avec un conseil DVD-VOD. Ce matin, vous nous conseillez de voir ou revoir le film de Quentin Dupieux qui s'appelle Le Dain, que j'ai raté en cinéma. Il est sorti il y a 7-8 mois, à peu près. C'était bien.
Exactement.
Ça
c'est bien, mais c'est complètement barré, hein, je vous préviens. C'est porté notamment par Jean Dujardin. Il est donc Georges, 44 ans. On comprend au début du film qu'il vient de tout plaquer, le volant aussi de sa voiture, direction le domicile d'un homme à qui il achète un manteau en daim avec des petites franges à l'ancienne. Il le paie assez cher d'ailleurs, cash avec ses économies. Et il repart s'installer dans une chambre d'hôtel. Sauf que, petit à petit, ce manteau va devenir comme une seconde peau, presque lui donner des pouvoirs, le désinhiber en tout cas, et prendre possession de lui. C'est-à-dire que Georges n'a alors plus qu'une idée en tête, supprimer de la surface de la Terre tous les autres blousons en tuant au passage leur propriétaire. Écoutez Jean Dujardin.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de se barrer, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en daim et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Voilà, une régression filmée, hein, puisqu'en parallèle, Georges filme ses actes, aidé par une complice jouée par Adèle Haenel, elle aussi formidable. C'est d'ailleurs amusant de les revoir ensemble à l'écran, loin des polémiques sur le J'accuse avec Polanski, avec Dujardin au casting, Adèle Haenel à la pointe de la controverse.
J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait l'air sévèrement givré, et c'est vrai que Dujardin avait l'air très à l'aise et très bon dans ce rôle-là.
Ce rôle et dans l'univers de Quentin Dupieux, effectivement.
Alors si on vous suit bien, Mathieu, ça a l'air donc complètement barré. C'est ça qui vous a plu essentiellement ou pas ?
Oui, il faut prendre ce film pour ce qu'il est, hein. C'est-à-dire un moment de divertissement, ça dure 1h17, pas une de plus, c'est assumé de la part du réalisateur, voilà, on est là pour se marrer, écoutez Quentin Dupieux.
Moi je me sens complètement sain et pas du tout, j'aimerais pas faire du mal à qui que ce soit. Après c'est un film, c'est-à-dire qu'on aime toujours relier ça à la vraie vie, mais il faut pas oublier que c'est un film, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un mec qui chavire et qui se met effectivement à zigouiller des mecs avec une palle de ventilateur, mais c'est rigolo, enfin, voilà, ça peut être divertissant. C'est l'avantage du cinéma.
Voilà, alors c'est l'univers de Quentin Dupieux, hein. Faut y adhérer, peut-être aller voir la bande-annonce avant pour voir si justement vous y adhérez et si ça vous attire. Et moi j'ai revu le film là il y a quelques jours et c'est un vrai défouloir en période de confinement, donc je vous le conseille, ça s'appelle donc Le Dain.
Le Dain, donc avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. Quant à vous Nicolas Caro, ce matin vous voulez nous parler d'un livre à côté duquel vous avez failli passer, comme on dit. Eh oui.
Et ça aurait été bien dommage, c'est pas à vous que je vais l'apprendre Bernard, parfois on regarde un livre, on se dit que ça a l'air pas mal, puis on le met de côté. Et puis on l'oublie. Oui. C'est ce qui m'est arrivé avec Les Magnolias chez Alary Éditions, signé Florent Oiseau. C'est un livre sorti en janvier. Je l'avais mis de côté, puis je l'ai oublié. Mais vous savez, on me demande sans arrêt si j'ai lu tel ou tel livre. Celui-là, on m'a posé la question 5 fois en me disant qu'il fallait absolument que je le lise.
Et donc, vous vous êtes exécuté, vous ne l'avez pas regretté.
Exactement. Et il y a de l'esprit des frères Cohen dans ce livre. C'est l'histoire d'Alain, un loser intégral. Il vit dans une petite ville où les psychanalystes ont fait faillite, non pas parce que les gens ne sont pas triste, mais parce que c'est une région où personne ne se plaint jamais, on bosse et c'est tout. Lui, il ne travaille pas, officiellement il est acteur, mais il n'a joué qu'une fois dans une série télé de l'été, Soleil sanglant, et encore, il jouait le rôle d'un cadavre, donc il était assez loin de l'Oscar. La faute peut-être à son agent Rico, un ami d'enfance qui a décidé qu'il était son impresario, mais qui est surtout un pauvre type qui vit de petits trafics et fait de temps en temps un petit tour en prison. D'ailleurs, ce même Rico vient d'emménager chez Alain pour une durée indéterminée, faute de pouvoir payer son loyer. Mais Alain, tout loser soit-il, il a bon fond. Il veut de mal à personne. Il est quasiment le seul de sa famille à s'occuper de sa grand-mère qui vit dans une maison de retraite, les Magnolias. Elle est très seule, aveugle et pratiquement sourde et il vient la voir tous les dimanches. Un jour, elle lui demande au moment de son départ, discrètement mais fermement, de l'aider à mourir.
Alors là, du coup, c'est beaucoup moins drôle.
Oui, mais de ce tragique, Florent Oiseau construit une fable extrêmement drôle. Alain va découvrir petit à petit quelques secrets de famille, et notamment les histoires secrètes de sa grand-mère, les histoires d'amour. Ça pourrait d'ailleurs peut-être expliquer la présence de cet homme en costume mauve très classe qu'il croise à chaque fois qu'il va rendre visite à sa grand-mère. Ouais. Parallèlement, on suit quand même sa carrière d'acteur, qui pourrait peut-être éventuellement commencer à décoller. Il faut dire qu'il s'entraîne tous les jours à jouer tout et n'importe quoi. Il s'entraîne à jouer notamment la stupeur, la colère, le doute, la la peur, mais aussi des choses un peu plus abstraites comme jouer l'automne, l'éclosion du bourgeon et même le chandelier qui se consume dans un manoir des Vosges.
Ah, effectivement, il est prêt à tout, hein, pour tous les rôles.
Oui, et en plus, Alain a de vrais combats. Pendant tout le livre, on suit un fil rouge, la liste des noms de poneys. Alain ne comprend pas et est proprement scandalisé par ce constat. Les poneys ont des noms ridicules comme Caramel, Cachou, Texas ou Pompon, alors que les pur-sang, eux, ont des noms à particules. C'est scandaleux. Bon, voilà, vous voyez l'esprit. C'est rare, très rare de rire, de vraiment rire en lisant un livre, et c'est le cas avec celui-là, et c'est en même temps très profond et finalement assez grave. C'est brillant.
Ça s'appelle Les Magnolias de Florent Oiseau et c'est sorti chez un petit éditeur, Alary, A2LARY. Merci en tout cas Nicolas Carreau pour ce conseil de lecture rattrapé par les cheveux, puisque le bouquin est sorti au mois de janvier. Et la musique dans tout ça, allez-vous me dire? Ben, on en parle dans un instant avec la divine Angèle Châtelier et votre choix musical à vous, auditeurs confinés. A tout de suite.
Europe 1.
La suite du tour de table culturel, c'est avec vous, Angèle Châtelier. Avec vous, certes, mais aussi avec les choix musicaux de nos auditeurs. C'est bien ça.
Oui, vous vous souvenez, Bernard, il y a quelques semaines, je vous parlais de ces inconnus et auditeurs qui participent à ma playlist Confinement tout doux. Oui. Ben, j'ai voulu m'amuser encore un peu. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, on découvre de super titres. Alors cette fois, j'ai demandé sur les réseaux sociaux quelle est la chanson qui vous rappellera votre confinement quand vous la réécouterez dans quelques mois. Celle que vous écoutez donc beaucoup en ce moment. Et je vous propose qu'on découvre quelques choix de ceux qui ont répondu.
Allons. Brésilien, ça.
Oui, c'est le choix de Thomas qui passe son confinement avec le maître de la bossa nova, João Gilberto. C'est vrai que ça détend. Et parce qu'il faut bien continuer à se lever le matin, Anne a une petite astuce, mettre Prince dès qu'elle sort du lit. Oh no,
là, le gars qui reste au lit avec ça, c'est qu'il est vraiment pas en bonne santé.
Exactement,
hein, parce que dis donc, c'est un coup de pied aux fesses.
Hein. Et puis, il y a aussi ces artistes que l'on écoute en ce moment parce qu'ils viennent de sortir des albums. C'est le cas de la pop star Dua Lipa ou des Canadiens The Weeknd, le choix de Benjamin.
C'est The Weeknd.
Exactement.
Je connais pas, c'est bien.
C'est super. Hein.
J'aime bien, c'est très mélodique et c'est très chouette. Angèle, vous nous avez fait partager ce qu'écoutent les auditeurs pendant le confinement. Une petite dernière, hein, quand même, pour
mais
la
parce qu'elle m'a bien fait rire, c'est Aurélie qui a partagé sa chanson. Un certain Serge Gainsbourg qui chante Ce mortel ennui.
Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas.
Quel choix judicieux, formidable le choix d'Aurélie, relayé donc par Angèle Châtelier ce samedi matin sur Europe 1. En tout cas, à propos d'ennui, je vous garantis que si vous lisez le polar que je vous conseille, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde et vous aurez de longues heures de bonheur devant vous parce qu'il est assez épais. Je vous raconte l'histoire. Lucy Blackman avait presque 22 ans, grande, blonde, assez jolie, ancienne hôtesse de British Airways et couverte de dettes. Au printemps 2000, sa grande amie Louise parvient à la convaincre. À Tokyo, dans les bars à hôtesses, on gagne de l'argent, beaucoup d'argent et vite. Et pas besoin de coucher pour ça. Ce que veulent les Japonais, c'est seulement passer un moment avec une occidentale et raconter leur vie en buvant du champagne, leur vie de cadre d'entreprise, épuisée au travail et frustrée au lit. C'est terriblement ennuyeux. Louise et Lucie trouvent très vite un engagement au Casablanca, c'est l'un des innombrables clubs de Roppongi, le quartier chaud de la capitale japonaise. Pour 5 heures par soirée, chaque fille empoche environ une petite centaine de dollars. C'est trop peu pour vivre dans la ville la plus chère du monde, mais il y a les Dohan. Ce sont des rendez-vous en tête-à-tête avec tel ou tel client fortuné, en dehors du club. Ça se passe en général au restaurant. C'est très cher et c'est faussement romantique, mais ça arrondit les fins de mois. Le samedi 1er juillet 2000, et tout cela est vrai malheureusement, Lucy Blackman part avec un client. À 19h06, elle appelle son amie Louise pour lui dire que l'homme est charmant et qu'elle passe un assez bon moment. Elle est d'excellente humeur, elle annonce qu'elle sera là dans la soirée. On ne la reverra plus jamais. 7 ans plus tard, l'enquête sur la disparue de Tokyo arrive à son terme, que bien entendu je ne vous révèle pas. Sachez seulement que cette quête de la vérité a fourni à Richard Lloyd Parry la matière d'un prodigieux roman policier vrai, intitulé « Dévorer les ténèbres ». Correspondant du Times au Japon, l'auteur connaît parfaitement les milieux interlopes de la ville, mais aussi le fonctionnement de la police et de la justice. Ce qu'il nous décrit est absolument sidérant et terrifiant aussi, à l'image du destin tragique de Lucy Blackman. « Dévorer les ténèbres » de Richard Lloyd Parry est paru chez Sonatine, et c'est un super bouquin. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un très bon dimanche de confinement. Non. Sauf Angèle, qui passe sa vie à cavaler dans tous les sens et qui refuse tout confinement. Ce dont je la félicite d'ailleurs. Bon dimanche à vous.